De la sorte, on alla au sacre, où l'archevêque Guillaume de Trie devait poser la couronne sur le front de son ancien élève. Les fêtes, à la fin mai, durèrent 5 jours. Il semblait que tout le royaume fût arrivé à Reims. Et non seulement le royaume, mais encore une partie de l'Europe, avec le superbe et impécunieux roi Jean de Bohême, le comte Guillaume de Hainaut, le marquis de Namur et le duc de Lorraine. 5 jours de réjouissance et de ripaille, une profusion, une dépense comme les bourgeois rémois n'en avaient jamais vu. Eux qui subvenaient aux frais des fêtes, et qui avaient rechigné devant le coup des derniers sacres, cette fois fournissaient le double, le triple d'un cœur joyeux. Il y avait 100 ans qu'au royaume de France on n'avait pas tant bu. On servait à cheval dans les cours et sur les places. La veille du couronnement, le roi arma chevalier Louis de Crécy, comte de Flandre et de Nevers, avec la plus grande pompe possible. Il avait été décidé en effet que ce serait le comte de Flandre qui tiendrait le glaive de Charlemagne pendant le sacre et le porterait au roi. Et l'on s'étonnait que le connétable eût consenti à se dessaisir de cette fonction traditionnelle. Encore fallait-il que le comte de Flandre fût chevalier. Philippe VI pouvait-il montrer avec plus d'éclat l'amitié dans laquelle il tenait son cousin flamand. Or, le lendemain, pendant la cérémonie dans la cathédrale, lorsque Louis de Bourbon, grand chambrier de France, ayant chaussé le roi de ses bottes fleurs-de-lysée, appela le comte de Flandre pour présenter l'épée, ce dernier ne bougea pas. Louis de Bourbon répéta « Monseigneur, le comte de Flandre !» Louis de Crécy resta immobile, debout, les bras croisés. « Monseigneur le comte de Flandre !» proclama le duc de Bourbon. « Si vous êtes séant, ou quelques personnes pour vous, venez accomplir votre devoir, et si vous sommons de paraître à peine de forfaiture !» Un grand silence s'était fait sous les voûtes, et un étonnement apeuré se peignait sur les visages des prélats, des barons, des dignitaires. Mais le roi restait impassible, et Robert d'Artois reniflait, nez en l'air, comme s'il s'intéressait au jeu du soleil à travers les vitraux. Enfin, le comte de Flandre consentit à s'avancer, s'arrêta devant le roi, s'inclina et dit « Sire, si l'on avait appelé le comte de Nevers ou le sire de Crécy, je me fusse approché plus tôt. » « Mais quoi, monseigneur ? » répondit Philippe VI. « N'êtes-vous point comte de Flandre ?»« Si, j'en porte le nom, mais n'en ai point le profit. » Philippe VI prit alors son meilleur air royal, poitrine gonflée, regard vague, et son grand nez pointé vers l'interlocuteur pour prononcer bien calmement « Mon cousin, que me dites-vous donc ?»« Sire, reprit le comte, les gens de Bruges, d'Ypres, de Poperinghe et de Cassel m'ont bouté dehors mon fief, et ne me tiennent plus pour leur compte, ni seigneur, c'est à peine si je puis tout furtivement me rendre à Gand, tant le pays est en rébellion. » Alors Philippe de Valois abattit sa large paume sur le bras du trône, geste qu'il avait vu bien souvent faire à Philippe le Bel et qu'il reproduisait inconsciemment tant son oncle avait été l'incarnation véritable de la majesté. « Louis, mon beau cousin, déclara-t-il lentement et fortement, nous vous tenons pour comte de Flandre, et par les dignes onctions et sacrements que nous recevons aujourd'hui, vous promettons que jamais ne prendrons paix ni repos avant que de vous avoir remis en possession de votre comté. » Alors le comte de Flandre s'agenouilla et dit « Sire, grand merci !» Et la cérémonie continua. Robert d'Artois clignait de l'œil à ses voisins, et l'on comprit alors que cet esclandre était coup monté. Philippe VI tenait les promesses faites par Robert pour assurer son élection. Philippe d'Évreux apparaissait ce même jour sous son manteau de roi de Navarre. Aussitôt après la cérémonie, le roi réunit les pairs et les barons, les princes de sa famille, les seigneurs d'au-delà du royaume venus assister à son sacre, et comme si l'affaire ne souffrait une heure d'attente, il délibéra avec eux du moment où il irait attaquer les rebelles de Flandre. Le devoir d'un roi preux est de défendre le droit de ses vassaux. Quelques esprits prudents estimant que le printemps était déjà fort avancé et qu'on risquait de n'être prêt qu'à la mauvaise saison, ils avaient encore en mémoire l'hoste boueux de Louis Hutin, conseillaient de remettre l'expédition à un an. Le vieux connétable gaucher leur fit honte en s'écriant d'une voix forte « Qui bon cœur a pour la bataille, toujours trouve le temps convenant !» À 78 ans, il éprouvait quelque hâte à commander sa dernière campagne et ça n'était pas pour tergiverser de la sorte qu'il avait accepté de se dessaisir tout à l'heure du glaive de Charlemagne. « Ainsi l'Anglois qui est par-dessous cette rébellion prendra bonne leçon !» dit-il encore en grommelant. Ne lisait-on pas dans les romans de chevalerie les exploits de héros de 80 ans, capables de renverser leurs ennemis en bataille et de leur fendre le haume jusqu'à l'os du crâne? Les barons allaient-ils montrer moins de vertu que le vieux vétéran impatient de partir en guerre avec son 6e roi? Philippe de Valois, se levant, s'écria « Qui m'aime bien me suivra !» Dans le mouvement général d'enthousiasme que suivit cette parole, on décida de convoquer l'ost pour la fin juillet, et à Arras comme par hasard. Robert allait pouvoir en profiter pour remuer un peu le comté de sa tante Mao. Et de la sorte, au début d'août, on entra en Flandre. Un bourgeois du nom de Zannequin commandait les 15 000 hommes des milices de Furnes, de Dixmude, de Poperinghe et de Cassel. Voulant prouver qu'il savait les usages, Zannequin adressa un cartel au roi de France pour lui demander jour de bataille. Mais Philippe méprisa ce manant qui prenait des manières de prince et fit répondre aux Flamands qu'étant gens sans chef, ils auraient à se défendre comme ils pourraient. Puis il envoya ses 2 maréchaux, Mathieu de Try et Robert Bertrand, dit le chevalier au Verlion, incendier les environs de Bruges. Quand les maréchaux rentrèrent, ils furent grandement félicités. Chacun se réjouissait de voir au loin de pauvres maisons flambées. Les chevaliers désarmés, vêtus de riches robes, se faisaient visite d'une tente à l'autre, mangeaient sous des pavillons de soie brodée et jouaient aux échecs avec leurs familiers. Le camp français ressemblait tout à fait au camp du roi Arthur dans les livres à images, et les barons se prenaient pour autant de Lancelot, d'Hector et de Galade. Or, il arriva que le vaillant roi, qui préférait prévenir plutôt qu'être prévenu, dînait en compagnie joyeusement quand les 15 000 hommes de Flandre envahirent son camp. Il brandissait des étendards peints d'un coq sous lequel était écrit « Le jour que ce coq chantera, le roi trouvé s'y entrera ». Ils eurent au fait de ravager la moitié du camp, coupant les cordes des pavillons, renversant les échiquiers, bousculant les tables de festin et tuant bon nombre de seigneurs. Les troupes d'infanterie française prirent la fuite. Leur émoi devait les porter sans souffler jusqu'à Saint-Omer, à 40 lieues en arrière. Le roi n'eut que le temps de passer une cotte aux armes de France, se couvrir la tête d'un bassinet de cuir blanc et sauter sur son destrier pour rassembler ses héros. Les adversaires, en cette bataille, avaient chacun commis une lourde faute par vanité. Les chevaliers français avaient méprisé les communaux de Flandre, mais ceux-ci, afin de montrer qu'ils étaient gens de guerre autant que les seigneurs, s'étaient équipés d'armure. Or, ils venaient à pied. Le comte de Hainaut et son frère Jean, dont les cantonnements se trouvaient un peu à l'écart, se lancèrent les premiers pour prendre les Flamands à revers et désorganiser leur attaque. Les chevaliers français, rameutés par le roi, purent alors se ruer sur cette piétaille qu'alourdissait un orgueilleux équipement, la culbuter, la fouler aux sabots des lourds destriers, en faire massacre. Les Lancelots et les Galades se contentaient de pourfendre et d'assommer, laissant leurs valets d'armes achever au couteau les vaincus. Qui cherchait à fuir était renversé par un cheval à la charge. Qui s'offrait à se rendre était dans l'instant égorgé. Il resta sur le terrain 13 000 Flamands qui formaient un fabuleux monceau de fer et de cadavres. Et l'on ne pouvait rien toucher, herbe, harnais, homme ou bête, qui ne fût poisseux de sang. La bataille du Mont Cassel, commencée en déroute, s'achevait en victoire totale pour la France. On en parlait déjà comme d'un nouveau Bouvines. Or, le vrai vainqueur n'était pas le roi, ni le vieux connétable gaucher, ni Robert d'Artois, si grande vaillance qu'ils eussent prouvé en s'éboulant comme avalanche dans les rangs adverses. Celui qui avait tout sauvé était le comte Guillaume de Hainaut. Mais ce fut Philippe VI, son beau-frère, qui moissonna la gloire. Un roi aussi puissant que l'était Philippe ne pouvait plus tolérer aucun manquement de la part de ses vassaux. On envoya donc sommation au roi anglais, duc de Guyenne, de venir rendre hommage et de se hâter. Il n'est guère de défaites salutaires, mais il est des victoires malheureuses. Peu de journées devaient coûter aussi cher à la France que celle de Cassel, car elle accrédita plusieurs idées fausses, à savoir d'abord que le nouveau roi était invincible, et ensuite que les gens de pied ne valaient rien à la guerre. Crécy, 20 ans plus tard, sera la conséquence de cette illusion. En attendant, quiconque avait bannière, quiconque portait lance, jusqu'au plus simple écuyer, considérait avec piété du haut de sa selle les espèces inférieures qui s'en allaient à pied.